Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré.
En direct jusqu'à 20h, le club de la presse. Une heure pour réfléchir à l'actualité avec un invité face à trois grandes signatures d'Europe 1. Et l'invité ce soir, c'est un grand spécialiste de la guerre. Bonsoir Gérard Chalian.
Bonsoir.
Spécialiste de la guerre parce que vous avez roulé votre bosse sur tous les fronts depuis des décennies, comme observateur et même parfois comme combattant. Et puis parce que vous continuez à 81 ans à aller patauger dans la boue, là où ça se passe, par exemple encore très récemment en Irak avec les Kurdes qui combattent Daesh. Spécialiste aussi de la théorie militaire, vous avez enseigné à l'école de guerre, à l'ENA et dans les plus grandes universités américaines. Et vous venez de publier chez Odile Jacob « Pourquoi perd-on la guerre ?» On vous posera la question. Pour vous interroger ce soir, je vous présente Gérard Carrérou, Serge Julie et Robert Namias. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Gérard Chalian, vous venez donc de passer 6 mois au Kurdistan irakien. Vous avez conseillé les Peshmerga qui combattent Daesh. Vous avez sans doute croisé les forces spéciales françaises qui sont là-bas. Vous avez enseigné la géopolitique et la stratégie à l'université d'Erbil. Alors c'est un peu particulier parce que quand on enseigne la guerre aussi près d'un front, eh bien vous avez eu l'occasion de faire des travaux pratiques en amenant directement vos étudiants sur le front. Vous allez nous raconter ça aussi. Est-ce que je peux commencer par une question un peu personnelle ? Qu'est-ce qui vous fait encore courir sur les lignes de front à plus de 80 ans ?
D'abord parce que je tiens la forme. Ensuite parce que j'aime ça. Voilà.
Et alors ça s'est passé un peu comme je le racontais à l'instant, ces 6 derniers mois à Erbil ?
Oui, j'ai plusieurs de mes anciens élèves qui sont sur le front. D'autres que je forme, où il y a d'ailleurs un tiers de femmes qui s'intéressent aux problèmes géopolitiques et aux problèmes stratégiques. Parce que les Kurdes m'ont demandé, en somme, de leur former des élites politiques, puisqu'ils en avaient moins que les grands voisins. Et c'est pour moi passionnant de leur expliquer tout ça, et puis en plus de pouvoir les emmener sur le terrain en leur disant, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et de voir aussi nos troupes, les troupes spéciales.
Alors ça, racontez-nous, parce que ça, on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. Il y a des Français au sol qui conseillent les militaires kurdes, et vous les avez croisés.
Oui, bien sûr, je les ai croisés. Bon, ils sont discrets, parce que c'est normal de l'être. Ils forment des Peshmerga. Ils leur montrent non seulement le maniement d'armes que ceux-ci ne connaissent pas, mais aussi ils leur expliquent comment on fait un combat sur un territoire qui est plat. Les Peshmerga, c'était des combattants de montagne. Ils savaient très bien faire la guérilla. Là, il se trouve qu'ils ont un front continu, un peu comme pendant la guerre de 14, où il faut creuser, avoir des tunnels, etc. C'est tout à fait nouveau pour eux. Alors, on leur explique que faire, comment s'adapter, etc.
Est-ce qu'il arrive que des soldats français soient directement au contact de Daesh, de l'État islamique?
Ils sont pas là pour combattre. Mais enfin, je veux dire, s'il y a un sniper en face, oui, il peut arriver à l'accident, bien sûr.
Gérard Carrérou.
Oui, moi je voudrais quand même vous parler de la Syrie, parce que on a l'impression qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. On n'a pas tellement de bonnes nouvelles dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme. On a l'impression, mais c'est, je voudrais votre opinion, on a l'impression que l'État islamique perd du terrain dans tous les sens du terme. En termes géographiques, en termes de nombre de combattants, en termes de possibilités d'argent, avec l'argent du pétrole, etc. Autrement dit, qu'on est dans le versant qui va dans le bon sens de cette guerre. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui, c'est ma certitude. Ils sont en perte de vitesse. Le meilleur moment pour eux, c'était le printemps 2014, quand ils ont emporté, sans combattre d'ailleurs, la ville de Mossoul, et puis ensuite ils se sont engagés dans le Sinjar, ils ont fait reculer les Kurdes qu'ils ont bousculés. C'était formidable. On a eu l'impression, enfin pour ceux qui s'intéressaient, voilà, c'est ce que je veux dire.
C'est pour éviter les conflits.
Oui, c'était formidable. Il y a beaucoup d'apprentis djihadistes avaient le sentiment que la victoire était au bout du fusil, comme on disait, jadis. Mais maintenant ils savent que, bon, ils sont contenus. Il y a eu une période où on les a contenus, et maintenant, lentement, il y a un recul. Recul en Irak, recul en Syrie, et il faut ajouter une chose, ils n'ont jamais en Syrie été si forts que ça. Ce qu'il faut dire, c'est que souvent j'ai entendu dire « Ah, ils tiennent un territoire grand comme la Grande-Bretagne ». Bon, dans la pratique, le territoire qu'ils tiennent, il est désertique. Ce qu'ils tiennent à Raqqa se trouve tout à fait à l'extrémité de la Syrie, le long du fleuve Euphrate. La Syrie, dite utile pour les géographes, c'est ce qui se trouve au bord de la mer sur 200 kilomètres. Cette zone, elle n'a jamais cessé d'être tenue essentiellement par le régime de Bachar al-Assad, que ça plaise ou non. c'est-à-dire qui contrôle dans la pratique les deux tiers de la population, et les autres mouvements islamistes, comme le fameux Jabhat al-Nosra, qui est l'émanation d'Al-Qaïda, ils sont beaucoup plus forts sur le terrain, parce que en plus, ils ne sont pas irakiens comme les gens du Daesh, ils ne sont pas des musulmans qui viennent depuis deux ans s'adjoindre au Daesh parce que c'est vraiment l'endroit où il faut être à cause du tintamarre qu'ils ont réussi à faire. Ils ne parlent même pas l'arabe syro-palestinien. Qu'est-ce qu'un Algérien sait de l'arabe syro-palestinien ? Rien du tout. Donc, si vous voulez, c'est des combattants, mais pas du tout des mobilisateurs, pas du tout des politiques. Alors que tous les autres mouvements, ils sont proprement syriens, ils s'accrochent à la population, ils essayent de les convaincre, etc. Et ils ont davantage, je dirais, d'accroche.
Robert Namias.
Pourquoi reculent-ils exactement ? Pour des raisons uniquement militaires, parce qu'on dit qu'ils sont 35 000 vrais combattants face quand même aux frappes aériennes qui finalement montrent leur efficacité à un certain moment, et puis sans doute à certaines forces terrestres. Est-ce que c'est uniquement pour cette raison-là, ou c'est parce que, vous l'expliquez très bien dans votre livre d'ailleurs, dans les mouvements de libération, dans toutes les guerres perdues depuis 40 par les Occidentaux, il y avait une approbation populaire, il y avait des soutiens populaires, il y avait des résistances qui étaient immergées à l'intérieur des populations. Est-ce que là c'est parce qu'aussi ils n'ont pas réussi finalement, sinon à s'imposer par la terreur, à s'imposer à la fois idéologiquement et politiquement sur ces populations qui donc sont quand même plus de 10 ou 15 ou 20 millions. Ils n'ont pas fait d'État finalement.
Bon, non, ils n'ont pas fait d'État, enfin, sauf symboliquement. Parce que de toute façon, cette frontière, on ne sait même pas où elle est. Ce que vous là où c'est le désert. Deuxièmement, en Syrie, ils ne sont pas forts. S'ils tiennent 1 million d'habitants, c'est un grand maximum. Leur base, c'est Raqqa. Bon, c'est tout. La force de ce qu'on appelle le Daesh, aujourd'hui, c'est l'Irak. En Irak, ils ont 6 millions environ, ils représentent 20%. Ils ont 6 millions de sunnites qui ont été brimés par les chiites depuis que les Américains sont rentrés en 2003. Ils ont été encore plus brimés à partir du moment où ça a été Nouri el-Maliki qui a été le patron des chiites à Bagdad. Et il y a eu rejet. Donc quand ils sont arrivés comme des libérateurs. Ils se sont installés autant que faire se peut. Ils ont essayé de remettre en place
un minimum. Ils ont convaincu les populations ou ils ont agi seulement par la terreur ?
Non, ils n'ont pas agi que par la terreur. Ils ont essayé de remettre en place un système hospitalier. Ils ont apporté ce qu'ils ont pu en matière de vivres, en matière de médicaments, etc., etc.
C'est-à-dire de Saddam.
Oui, ils font.
En particulier, voilà, l'appareil administratif de Saddam.
Voilà, c'est ce qu'ils savaient faire. Ils savaient faire, et c'est la technique d'ailleurs de tous les mouvements révolutionnaires. Il faut arriver à fournir à la population quelque chose, et ils ont aussi beaucoup plu aux jeunes. Avec leur côté panache, etc.
Donc ils n'ont pas gagné cette partie-là non plus.
Mais perdent-ils en Irak ?
Alors voilà, c'est la question qu'on va se poser, Gérard Chagnon. Est-ce qu'on va battre l'État islamique ? Est-ce qu'on va battre Daesh avec nos bombardements ? On vous pose la question juste après une première coupure.
Le club de la presse d'Europe 1.
C'est avec vous Nicolas Poincaré, avec Serge Joly, Gérard Carrérou et Robert Namias. Vous recevez le géopoliticien spécialiste du terrorisme Gérard Chalian qui signe chez Odile Jacob « Pourquoi perd-on la guerre, un nouvel art occidental ?»
Voilà, et qui rentre de 6 mois passés au Kurdistan près des lignes de front. Pendant la pub, on lui demandait quel était le secret de sa forme qui lui permettait d'aller à la guerre encore à 81 ans. Il nous a répondu « Culture physique, course à pied et sport de combat ». Ça, c'était pendant la pub entre nous. Juste avant la pause, on vous posait une question importante, Gérard Chalian. Est-ce que d'après vous, la victoire contre Daesh est possible ? Est-ce qu'elle est probable ? Est-ce qu'elle est pour bientôt ? Est-ce que les bombardements russes et occidentaux sont en train de les faire suffisent à les faire
d'abord,
perdre ?
D'abord, il y a la Syrie. Alors en Syrie, indiscutablement avec l'intervention musclée de M. Vladimir Poutine et aussi à cause de la pugnacité des combattants kurdes de Syrie, qui sont de remarquables combattants, ils sont effectivement sur le recul. Ça, c'est très net. Et Raqqa peut tomber. Maintenant, en ce qui concerne l'Irak, c'est une autre paire de manches. L'Irak, ça va être infiniment plus compliqué, dans la mesure où il y a une population qui est sunnite, qui a des sympathies. C'est trop facile de dire qu'ils ne survivent qu'à cause de la terreur. Il y a certainement des gens qui sont terrorisés, mais il y a aussi des gens qui sont pour. Et là, s'imaginer sous prétexte que Palmyre est tombé, alors que Palmyre, très franchement, c'est un peu au milieu de nulle part. Il n'y a rien autour de Palmyre, c'est le désert. Moi, je l'ai franchi plusieurs fois quand je passais clandestinement pour aller visiter les Kurdes en 2000 et 2001. Dans la pratique, s'emparer de Mossoul, c'est une autre paire de manches. C'est une ville de 1 million d'habitants. Est-ce qu'on va bombarder Mossoul? Non, c'est impossible. On va pas bombarder une ville. Sans ça, on va créer un véritable massacre. Donc, il va falloir approcher. Et qui va approcher? Des Kurdes qui ne sont pas arabes, ils sont pas chauds. Ensuite, des chiites. Libérer des sunnites avec des chiites, c'est un peu comme envoyer des troupes russes pour libérer des Polonais. Vous voyez, c'est pas facile.
Attendez, juste pour qu'on comprenne bien, le Daesh, l'État islamique, a deux capitales, Raqqa en Syrie, qui est une toute petite ville, oui. Et Mossoul en Irak, qui est une très grande ville, de la taille de Lyon ou de Marseille à peu près.
Oui, largement.
Et là, on ne peut pas reprendre cette ville par des bombardements.
Non, on peut pas bombarder Marseille pour s'emparer de Marseille.
Il faut y aller au sol.
Bon, alors qui va aller au sol? Des Kurdes, c'est pas des Arabes, ils seront pas bien vus. Et des chiites, qui sont des gens qui ont brimé particulièrement justement ces gens de Mossoul pendant des années. Alors ça, c'est difficile d'expliquer, voilà, maintenant on a une armée, on leur a expliqué, surtout, soyez gentils avec la population, etc. Mais faut pas s'attendre à ce qu'on va être reçu à bras ouverts, c'est très difficile. Ce sera difficile.
Il y a 10 ans, Gérard Chalian, le général américain Petraeus, c'est à peu près 2006, avait réussi, avec beaucoup d'argent d'ailleurs, à retourner une partie des combattants qui étaient contre les Américains et qui étaient les tribus sunnites. Là, vous avez parlé de cette base sunnite qui soutient encore l'armée islamique. Est-ce qu'on peut, une opération de même type est-elle encore possible? Ce qui a été fait il y a 10 ans, est-il possible aujourd'hui?
Les Américains vont essayer, une fois de plus, d'utiliser les tribus, parce que les tribus, c'est quelque chose qui compte vraiment en Irak. Alors, est-ce que les types vont se lancer dans l'opération? Qu'est-ce qu'on leur donne en échange? La dernière fois, ils ont liquidé Al-Qaïda, mais ils n'ont pas obtenu d'être cooptés par l'armée de Nouri al-Maliki, c'est-à-dire qu'ils ont été les perdants dans l'affaire. Et Petraeus, finalement, il a fait un beau coup, mais il n'a pas été suivi. Donc les gens deviennent évidemment très, comment dirais-je, prudents pour s'engager. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que les Américains ont désespérément cherché des sunnites modérés pour lutter contre les islamistes. La réalité, c'est que le sunniste modéré, il veut pas mourir.
Serge Lé.
Oui, en lisant votre livre, on a l'impression que dans ce nouvel art occidental qui serait celui de la défaite, il y a des guerres qui sont vraiment des catastrophes. Et il y en a au moins deux que vous citez. On en déduit. La guerre 2003 en
Irak, qu'il ne fallait pas faire.
Qui produit finalement, au final, ça a produit l'État islamique.
Oui.
Et une deuxième guerre, celle en Libye,
qui est une catastrophe absolue. C'est un désastre complet. Pourquoi? Parce que tout le monde constate que la Libye est un pays qui est non dirigé. Tout le monde constate que la Libye est un pays à l'intérieur desquels les islamistes sont établis, et en plus en bord de mer. Ça donne une issue très importante. On n'a rien réussi à régler. On a essayé d'intervenir pour qu'ils s'entendent, mais non, ils ne s'entendent pas. En fait, il ne fallait pas y aller. En Irak, en Libye.
En Libye,
bah oui, c'est un pis-aller, oui. En politique, on n'est pas obligé uniquement d'avoir des considérations morales. Il faut savoir qu'est-ce que vous produisez. Si vous produisez une catastrophe pire que celle que vous voulez combattre, vous n'avez pas gagné stratégiquement. C'est comme ça, la vie.
Est-ce que c'est le cas en Syrie?
Alors, en Syrie, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de choix. Ce qu'on aurait pu faire ou pas faire avant ne m'intéresse pas. Je veux dire, je constate aujourd'hui que le régime de M. Bachar el-Assad ne veut pas détruire l'Occident, alors que les islamistes le souhaitent. Donc, pour l'instant, ce pis-aller d'avoir M. Bachar el-Assad, on peut faire avec, on verra plus tard. On verra ce que veulent effectivement la majorité des Syriens. Mais pour l'instant, l'important, c'est de battre les islamistes qui, eux, veulent notre peau. Ils aimeraient beaucoup nous liquider, ils aimeraient beaucoup nous affaiblir, ils aimeraient beaucoup perturber complètement nos vies.
Mais comment on a du mal à imaginer une transition pacifique comme prétend pouvoir l'organiser la conférence de Genève? Ce que vous dites, ça, très concrètement, ça veut dire on laisse Bachar en place, quoi. Et on le laisse en espérant d'ailleurs que Daesh un jour disparaisse, et on s'apercevra que Bachar est toujours en place. C'est quand même ce que vous dites, objectivement.
Oui. Ben, disons qu'il n'y a pas de solution idéale, d'abord. Ensuite, ce que nous voulons, c'est liquider le Daesh, autant que faire se peut. Alors que tant que l'autre continue d'exister, ça va. Ceci dit, on peut dire avec certitude, M. Bachar el-Assad ne restera pas le patron de la Syrie sur la longueur.
Mais vous dites aussi dans votre livre que s'il y a 2 ans, comme ça a failli se faire, on avait bombardé la Syrie avec volonté éventuellement de se débarrasser de Bachar, ça aurait entraîné, c'est là que c'est grave, enfin je pense que vous dites ça aurait entraîné la liquidation des communautés alaouites, chrétiennes et druzes, soit un bon tiers de la population syrienne,
exact.
Ce qui représente plusieurs millions. Est-ce que c'est votre conviction que
Absolument.
S'il y avait eu cette... Parce qu'on voit bien quel était le but. Le but était humanitaire. Le but était, il faut sauver, etc., toutes ces populations. Il y aurait eu plusieurs millions de morts avec les communautés.
Oui, parce que qui aurait fait ces morts? Ces morts auraient été faites par les islamistes qui estiment que seuls les sunnites de leur obédience disposent de la vérité et que les autres doivent disparaître. Ils l'ont fait avec d'autres communautés en Irak dès qu'ils sont rentrés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent, en quelque sorte, c'est se débarrasser de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà.
Alors, ces islamistes qui, vous nous dites, sont en train de reculer en Syrie, mais qui nous menacent toujours autant en Europe. On parle de ça, Gérard Chaillon, juste après une nouvelle pause.
Le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré.
Le club de la presse avec Gérard Chaillon, spécialiste de stratégie, spécialiste de la chose militaire, qui signe chez Odile Jacob. Pourquoi perd-on la guerre? Vous êtes interrogé ce soir, Gérard Chaillon, par Gérard Carrérou, Serge Julie et Robert Namias. On parlait de l'État islamique de Daesh, donc qui recule en Syrie, mais la question qui nous intéresse au premier chef, c'est est-ce que en reculant là-bas, ils sont plus ou moins dangereux pour nous? Autrement dit, des opérations comme celle du 13 novembre à Paris, comme celle du 22 mars à Bruxelles, sont-elles toujours d'actualité?
Quand ils reculent sur le terrain, ils ont absolument tendance à, au contraire, faire des attentats un peu partout. Que ce soit à Istanbul, en Côte d'Ivoire, à Bruxelles, à Paris, etc., etc. Oui, c'est une façon d'occuper, en quelque sorte, le terrain. Parce que le Daesh, il faut lui reconnaître un truc, ils n'ont pas cessé d'occuper la presse et les médias depuis le début. Au début, ils ont gagné. Après ça, ils ont fait de la théâtralisation de l'horreur. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on brûle un pilote jordanien. Et puis, comment on coupe les têtes. Et puis, bon, nous, on a répété ça. Et puis ensuite, on va montrer le genre de choses qu'on arrive à faire ici et là. Maintenant, on va faire des attentats à gauche et à droite. Bon, c'est-à-dire, on occupe le terrain. Et nous, malheureusement, nous le répercutons sans arrêt aussi.
Vous avez un jugement qui semble négatif. Vous semblez nous dire, vous avez tort d'en parler autant.
Oui.
Des attentats,
oui.
Vous pensez le 13
oui.
novembre, fallait mezzo voce, quoi. C'est non, un peu banalisé, il faut banaliser le...
Disons,
non, mais c'est ça que vous...
Oui, je dis franchement qu'il ne faut pas passer en boucle sans arrêt des attentats dans la mesure où vous déstabilisez l'esprit. Parce que c'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est une arme psychologique. Hein. Ça n'a jamais vaincu un État. Bon... Vous cherchez à occuper les esprits, à casser les volontés. Bon, alors il faut pas qu'on collabore avec ces gens-là en démobilisant les nôtres, en créant une psychose. Bien sûr qu'il faut informer. Informer, c'est une chose. Vendre de l'angoisse à répétition, c'est quelque chose de différent.
Qui n'est pas d'ailleurs uniquement l'affaire des médias, parce que honnêtement, le gouvernement français, a commencé par son chef, le Premier ministre, ne cesse de dire notamment que nous sommes en guerre.
Vous avez parfaitement raison.
Mais c'est votre avis ou pas?
Nous ne sommes pas en guerre. Il faut être sérieux. La guerre, ça signifie quelque chose de concret. La guerre, ce sont des armées qui s'affrontent. Des opérations d'ordre classique qui sont incessantes. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en conflit. D'accord? Nous sommes dans le cadre d'un conflit dans lequel nous sommes mêlés. Nos troupes interviennent quelque part, ce qui fait qu'on nous rend des coups. Mais nous ne sommes pas en guerre. Non. La guerre, c'est autre chose.
C'est une partie de la réponse à la question que je vais vous poser. Est-ce que la stratégie politico-militaire du gouvernement français, qui est de la présidence Hollande, puisque d'une certaine manière, depuis le Mali, la France intervient sur plusieurs théâtres d'opérations, est-ce que ça vous semble la bonne?
Au Mali, pour sauver Bamako, c'était logique d'intervenir. Ceci dit, quand on se lance dans ce genre d'expédition, encore on a de la chance, dans le Sahel c'est sous-peuplé. Donc la base de masse des types d'en face, elle est très très légère. Mais enfin, on commence et puis après ça s'éternise. Maintenant, d'une façon générale, je peux pas approuver une direction qui prétend que nous sommes en guerre et puis qui joue beaucoup du menton avec des législations qui servent pas à grand chose et qui crée effectivement un sentiment que nous sommes dans la menace. Ceci dit, bon, les gouvernements, ils sont poussés par les médias sont poussés par l'opinion publique. Enfin, il y a un tout. Il n'y a pas de situations qui sont prises en main de façon concrète parce qu'on est dans une sorte de flou. Nous ne sommes pas en guerre, donc on fait semblant.
Il faut y aller ou pas y aller
Non, il faut pas. Je veux dire, faut pas aller en Syrie, ça c'est sûr. Les Américains, d'ailleurs, il faut pas oublier que M. Obama a été élu pour se désengager, pas pour s'engager. Hein ? Quant à nous, bon, il y a eu un moment où on était un peu 20 ans en guerre, mais là-dessus, je pense qu'on s'est calmé.
Et pour revenir aux attentats du 13 novembre, le spécialiste de la chose militaire que vous êtes, qu'est-ce que vous avez pensé du commando, de son organisation, de ces 10 hommes, croyait-on, on s'aperçoit ensuite qu'ils sont plus nombreux, que les rescapés de ce groupe-là sont capables d'aller commettre d'autres attentats à Bruxelles ?
Je vous dirais que d'une part, nos services entre 1996 et 2011 ont bien travaillé parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats qui ont été déjoués, que la percée du Daesh a véritablement accéléré le mouvement, c'est-à-dire il y a un tas d'apprentis djihadistes qui se sont dit chouette, allez on y va, et que tout ça est le produit d'un long travail, qui ne date pas d'hier. D'une part, il y a l'Arabie Saoudite qui n'a pas cessé depuis au bas mot la première crise pétrolière de payer les médressas, de payer des prêcheurs un peu partout, y compris en Europe, c'est-à-dire aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'en Grande-Bretagne, etc., en Belgique. Et ça, on a laissé faire, on a eu tort. On n'a pas à admettre des prêcheurs étrangers qui travaillent contre nous.
Encore aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui non. Mais le mal est fait. C'est-à-dire que pendant une quinzaine d'années, ils ont travaillé comme ça, comme des taupes. Et puis bon, on cueille le résultat. On a laissé pousser des choses. C'est un fait.
Oui, mais Gérard Chalian, vous voulez pas qu'on parle de guerre. Et en même temps, vous utilisez vous-même un langage guerrier. C'est ainsi que vous dites, l'État islamique dispose potentiellement en Europe d'une armée. Vous ne dites pas de groupe, vous dites d'une armée de réserve au sein d'une partie de la jeunesse. Est-ce que ça veut dire que vous croyez, il y avait eu un député français qui avait dit ça, il s'était fait incendier par beaucoup de ses partisans, même et de ses adversaires, c'était Estrosi, il avait parlé d'une
cinquième colonne.
Est-ce, c'est un peu la même idée que vous développez, l'armée de réserve au sein d'une partie de la jeunesse. Et vous venez de dire qu'en gros, ça dure depuis 1995 et ça s'est amplifié avec... Oui.
Armée de réserve, c'est une expression. On parlait aussi de l'armée de réserve du prolétariat, etc. Je veux dire, une armée de réserve, c'est pas nécessairement des gens armés qui attendent de passer à l'action. Mais effectivement, il y a eu un terreau qui a été alimenté, notamment par les Saoudiens, aussi par d'autres, comme les frères musulmans, chez nous moins, mais enfin, en même. Et tout ça a poussé dans la mesure où finalement, nous avons intégré autant que faire se peut, mais pas suffisamment, parce que, bon, on était dans une période où le chômage s'est propagé. C'était plus facile, en plus, de fermer les yeux sur la drogue en se disant, ben, au moins, ça crée pas trop de problèmes. Bon, tout cela, on le paye d'une certaine façon. Mais le but final de gens comme le Daesh et d'autres, c'est de provoquer à travers ces attentats, de notre part, une réaction d'hostilité, mais véritablement active à l'égard de la communauté musulmane. Ce qu'ils adoreraient, c'est qu'on aille brûler 5 mosquées, qu'on aille molester ou tuer un certain nombre de musulmans. Et alors là, ils pourraient dire, voyez, on vous l'avait toujours dit, c'est des islamophobes, il y a eux et nous. C'est ça qu'ils essayent de créer chez nous.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que c'est devenu un vrai problème franco-français, voire européen, et que même si on coupait la tête, c'est-à-dire Daesh, si on arrivait à tuer Daesh, à gagner la guerre contre Daesh, on ne tuerait pas la bête qui maintenant est immergée dans un certain nombre de pays À commencer par la France, évidemment. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire.
Je dis qu'on ne tue pas une idéologie, on ne bombarde pas une idéologie. Par contre, frapper dans son centre de gravité un mouvement qui fait beaucoup de tam-tam, qui mobilise parce qu'il a l'air de réussir, c'est ce qui était le cas en 2014, 2015. Bon, c'est une très bonne chose de l'affaiblir. Il faut l'affaiblir, montrer que finalement, non, la victoire n'est absolument pas au bout du fusil. Qu'est-ce qu'ils offrent finalement ? Aucune perspective économique, rien. Tout ce qu'ils offrent, c'est de la perturbation. Voilà, finalement, sur la longueur, ils vont pas vraiment compter non plus. Vous vous souvenez des Brigades Rouges ? Ils voulaient faire la révolution en Italie. Bon, ils ont emmerdé le monde pendant 15 ans, ils sont arrivés à quoi ? À rien.
Mais quand on tue les chefs ou qu'on les met en prison... Pratiquement, les troupes se débandent. Ça a été vu dans beaucoup de situations historiques. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va arriver et que, par exemple, ces jeunes qui y vont par cette espèce d'engouement pour le nihilisme islamique, du coup, n'iront plus ?
Oui, enfin, pour eux, c'est pas du nihilisme. Hein. Je veux dire, pour eux, c'est quelque chose qui fait sens à leurs yeux. Ils veulent participer d'un combat qui leur paraît avoir un sens. Il y en a qui y vont aussi pour l'aventure. Mais bon, couper les têtes, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est essentiellement montrer que le mouvement qui a un soi-disant État ne peut pas, en fin de compte, vaincre. Ça, c'est important.
Serge Lim.
Est-ce que je reviens un peu en perspective sur toutes ces questions entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, les chiites, les sunnites. Est-ce que ce qui se passe en Europe n'est pas un effet collatéral d'une guerre entre chiites et sunnites dans lequel on n'a pas grand-chose à voir, mais dans lequel on a fait beaucoup d'erreurs, on a tisonné peut-être cette guerre.
Là, vous soulevez un problème tout à fait important. Il ne faut pas oublier dans cette affaire que nous sommes dans un combat entre sunnites et chiites, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, elle, depuis longtemps, elle militait pour un wahhabisme, c'est-à-dire un sunnisme très très dur. Et quand l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, c'était insupportable de voir un type qui était chiite, et en plus persan, même pas arabe, prétendre représenter la révolution musulmane. Bon, donc cet affrontement, nous voyons, il se coagule en Syrie. Notre intérêt à nous, c'est qu'aucun des deux ne gagne.
Ouais, c'était le bon temps quand il y avait Saddam Hussein qui se battait contre les Iraniens.
Oui, vous parlez comme Kissinger qui disait ils ont cassé puiser l'un l'autre.
Exactement.
Bon. Est-ce que ça veut dire que l'Arabie Saoudite c'est un allié infréquentable pour la France aujourd'hui dans l'état des relations actuelles ?
Pour rester poli, je dirais que l'Arabie Saoudite est un allié ambigu, comme la Turquie. Ce sont des alliés, mais ils étaient fort utiles du temps de la guerre froide parce que ça permettait justement, grâce à leur idéologie, de lutter contre le communisme, le marxisme, etc. Depuis que l'URSS n'existe plus, d'abord les Turcs ont découvert qu'ils avaient un agenda à eux avec M. Erdogan. Ensuite, les Saoudiens ont aussi un agenda, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument affaiblir l'Iran. Bon, je pense que M. Obama a bien fait de remettre l'Iran en selle. Parce qu'il faut rester arbitre d'une situation et non pas être d'un côté absolument contre l'autre. Et notre intérêt à nous, c'est qu'aucun des deux ne gagne. C'est vrai, il y a ce combat-là. Maintenant, malheureusement,
nous ne choisissons pas. Et nous, notre position, ça devrait être de ne jamais choisir, de ne jamais trancher, de ne jamais choisir son camp.
Oui, on n'a pas intérêt à ce que l'un ou l'autre triomphe. C'est net.
Je veux dire... On dit volontiers que l'Arabie Saoudite a beaucoup aidé il y a 20 ans. Il y a 15 ans, mais que maintenant, ils ont eu peur eux-mêmes que ça se retourne sur leur propre territoire et que du coup, ils ont un peu modéré. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Ouais, depuis l'année dernière, ils font gaffe. C'est-à-dire que maintenant qu'ils voient que le Daesh prétendait enfin être aussi contre l'Arabie Saoudite, bon, ils ont arrêté. Ceci dit, ça ne les empêche pas, à l'heure actuelle, d'aider les autres mouvements islamistes, tous, c'est-à-dire ceux qui sont les 17 mouvements qui sont dans Jaïch al-Islam, qui sont tous des mouvements islamistes aussi, sont aidés à la fois par les Turcs, par les Qataris et par les Saoudiens. En d'autres termes, nos soi-disant alliés aident des gens qui ne combattent pas du tout pour nous. Donc nous sommes dans un imbroglio. Nous sommes dans un imbroglio où il faut savoir où on met les pieds. C'est pas simple, il n'y a pas de solution miracle. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut affaiblir sur le terrain les islamistes Et à mon avis, j'ajouterais quel qu'il soit.
Et donc c'est plutôt un retrait progressif de cette région. Au fond, c'est un peu la politique d'Obama.
C'est la politique d'Obama. Il sait très bien que qu'est-ce qui se passe finalement dans le monde. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la montée de la Chine. Et j'ajouterais, c'est la montée de l'Inde. C'est-à-dire, c'est la montée de ceux qui travaillent, pas de ceux qui lancent des bombilettes à gauche et à droite pour perturber. Et de ce côté-là, les gens sérieux, ils se trouvent dans la Grande Asie.
Gérard Chalian, pourquoi perd-on la guerre? C'est le titre de votre livre et c'est la question qu'on continue à se poser juste après une dernière pause.
Le club de la presse d'Europe 1.
Avec vous Nicolas Poincaré pour vous accompagner, Robert Namias, Serge Julli et Gérard Carreau. Vous interrogez le géopoliticien, spécialiste du terrorisme, ancien enseignant à l'école de guerre, Gérard Chalian, qui publie chez Odile Jacob, pourquoi perd-on la guerre?
Oui, et Gérard Chalian, on va se poser la question, pourquoi depuis le Vietnam, l'Occident perd à peu près toutes les guerres? Mais justement, j'avais une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous-même, on l'a compris, vous êtes un spécialiste des guérillas, des conflits armés comme observateur ou parfois comme acteur? Autrement dit, pour être concret, vous êtes battu, Kalachnikov à la main?
Ça m'est arrivé, M7. Mais je veux dire, c'est pas l'objet de la soirée.
Non, mais ça m'intéresse quand même.
Venons-en au
truc.
On n'en
saura pas plus?
Pourquoi? Non. Bon. Pourquoi est-ce qu'on les gagnait, les guerres autrefois, à la période coloniale? On les gagnait parce que, d'une part, on s'installait dans le pays. Je porte pas de jugement moral, hein. On s'installait dans le pays. Par exemple, les Britanniques, quand ils envoyaient un officier en Inde, le type restait 10 ans. Sa première perme, c'était 10 ans après. Donc, il était immergé, il savait qui est qui, etc. L'autre, de l'autre côté, il ne connaissait pas du tout. Il savait même pas pourquoi on était devenu si extraordinairement fort à cause de la révolution industrielle. Et après la Seconde Guerre mondiale, d'un seul coup, les Japonais ont montré qu'on pouvait vaincre toutes ces nations coloniales en 1942. Et l'état d'esprit a changé. On a dit bon, il n'y a pas de race supérieure puisqu'on s'était battu contre Adolf Hitler qui prétendait qu'il y en avait une. On a dit le droit à l'autodétermination, ça existe. Il y a eu cette période de décolonisation. Et après, on a prétendu, quand c'était la guerre du Vietnam, sous prétexte qu'on voulait pas que le Vietnam se réunissent, etc. On a prétendu envoyer des gens au Vietnam. Seulement, on les envoyait un an. Un an sans connaissance culturelle du pays en question, sans connaissance historique du pays en question. Monsieur McNamara, qui était quelqu'un d'honnête, puisqu'il a dit « je me suis trompé », reconnaît en 1995 que je ne connaissais rien au Vietnam. Alors comment on prend des décisions quand on connaît rien à l'histoire, rien à la culture? C'était pas le cas de Churchill, c'était pas le cas de Charles de Gaulle. Il y avait une génération de gens qui avaient roulé leur bosse, qui avaient été sur le terrain, et il y a une génération de gens qui sont de remarquables bureaucrates à Washington ou ici dans des capitales européennes, où ils sont jamais vraiment sortis que pour aller en visite officielle. C'est-à-dire le terrain, c'est autre chose. C'est de la chair, c'est du sang. Bon, il faut connaître. Et aujourd'hui, je dirais, non seulement on pouvait dire nous les connaissions, aujourd'hui, je dirais que nous ne les connaissons plus vraiment bien et eux ne nous connaissent que trop. C'est-à-dire que en face, les gens du Daesh, pour prendre l'exemple du Daesh, ils connaissent nos points faibles, ils savent très bien que comment on peut nous inquiéter, comment on peut ravir la maîtrise des médias, comment on peut nous affaiblir en créant un certain nombre de victimes, on n'encaisse plus les morts. Je dis que c'est très 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 civilisé, c'est très bien, mais malheureusement, les guerres produisent des morts.
La guerre zéro mort, c'est un concept auquel vous ne croyez pas.
Guerre zéro mort, si vous voulez, c'est un vœu pieux, quoi. C'est un paradoxe. Évidemment, on peut bombarder, ça diminue le nombre. Mais moi, j'en ai vu en Afghanistan. Bon, l'ordre de la République, c'était surtout, avant tout, pas de victimes. Je veux pas de morts. Pour le reste, débrouillez-vous. Alors, on peut pas mener une guerre sur ces bases-là. Et quand le général McChrystal est allé en Afghanistan, il a dit, les gars, il y a 5% d'entre vous qui sortent, les autres, ils bouffent de la bouffe que l'on renvoie des États-Unis, ils écoutent de la musique. Vous savez ce que vous êtes, les mecs? Vous êtes des mecs en transit. C'est tout. Voilà. Donc, on peut pas faire la guerre dans ces conditions-là. Et à partir de là, les choses changent. Et il y a une asymétrie extrêmement importante, qui a été relevée autrefois par le général Beaufre, c'est l'asymétrie idéologique. Moi, je voudrais bien rentrer à la maison, et toi, t'es prêt à mourir.
Alors, vous avez parlé du Vietnam, c'est évident, on n'avait pas la culture, les Américains n'avaient pas la culture du Vietnam, après il y a eu les pays arabes, à partir de l'Irak, pas de culture des pays arabes, pas de culture arabe. C'est quoi la prochaine étape? Quand on vous lit, on se dit c'est l'Afrique. Au fond, plus de culture africaine, alors qu'il y a eu des grands pays en tous les cas des pays colonisateurs, sans jugement de valeur là non plus. Enfin, qui avaient un minimum cette culture de l'Afrique. On l'a totalement perdu, et vous semblez dire que le prochain terrain devant lequel on va être confronté, sur lequel on est, c'est celui de l'Afrique finalement.
Oui, c'est hautement probable dans la mesure où il y a sous nos yeux là un doublement démographique qui est en train de se produire. Quand on aura deux fois plus de gens, il y aura pas plus de boulot, il y en a déjà pas. Il y aura pas plus d'instruction, il y en a déjà peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans une certaine zone qui est l'Ouest africain, et ça nous concerne en tant que Français.
Et la France est en première ligne.
Plus l'Afrique orientale, et où l'islam est beaucoup plus ancien que la période coloniale, où il y avait déjà des califats de Sokoto à la fin du XVIIIe siècle, où l'Almami Touré que nous avons combattu. L'Almami, ça voulait dire le commandeur des croyants. C'est-à-dire, tout ça existe, c'est pas oublié. Et demain, quand il y aura pas de boulot, quand ce sera les difficultés, parce qu'en définitive, l'Afrique se développe, oui, mais sur un tout petit secteur bien, bien limité, ça va être l'islam, c'est la solution. Donc, on va avoir des problèmes, c'est certain. Voilà.
Il y en a déjà quand même. L'islamisation de l'Afrique a commencé déjà largement. Elle a commencé très tôt d'ailleurs, vous dites, dans l'histoire.
Oui.
Mais sans remonter à l'histoire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de communautés partout en Afrique, à peu près partout.
Le Centrafrique, c'est un signe. En Centrafrique, il s'est passé quelque chose qui devrait attirer l'attention. Et ce qui se passe au Nigeria, ce n'est pas négligeable non plus.
Vous dites qu'il s'est passé quelque chose, quoi ?
Il s'est passé qu'on avait un gouvernement minoritaire musulman qui s'est mis à brimer tous ceux qui étaient animistes ou chrétiens. Et la France a été obligée d'intervenir. Bon, donc ce genre de choc va se multiplier lorsque la propagande de type islamiste va pénétrer davantage. Bon, elle va pénétrer dans la mesure où les conditions vont faire que comme on n'aura pas de boulot, comme on n'aura pas non plus de possibilité d'immigrer, personne ne voudra 300 millions d'Africains, même pas les Brésiliens, donc il va y avoir des problèmes.
C'est-à-dire que ce qui s'est passé cet été, ce qu'on appelait la vague des migrants, environ 1 million au moins pendant l'année 2015 qui arrive vers l'Europe, vers l'Allemagne en particulier pour l'instant, mais vers l'Europe, vous pensez que c'est qu'un début ?
Ça dépend. Par exemple, si vous dites, on peut en absorber un certain nombre et nous avons besoin de main-d'œuvre. Bon, ça c'est une chose. De ce côté-là, Madame Merkel, c'est cohérent ce qu'elle dit. Maintenant, d'un autre côté, les gens qui vous disent attention, l'appel d'air. Si vous dites, il y a plus qu'à venir. Il y a 300 millions de candidats. Donc, il faut savoir exactement jusqu'où on va. Et c'est pas un problème simple. Et bon, avoir délégué à la Turquie le soin de fermer le robinet, nous verrons si c'est payant.
Mais sur cette question des migrants, votre position, c'était il fallait accueillir les migrants syriens.
On est 500 millions. Je vois pas pourquoi on pourrait pas accueillir 2 millions de mecs en écrémant un peu, parce qu'il faut savoir écrémer. Moi par exemple, tout ce qui est familial, en principe, c'est plutôt paisible. Et tout ce qui est jeune mec seul, entre 18 et 25, ça demande à être vérifié, voilà.
Mais vous pensez que c'est une grave erreur de ne pas l'avoir fait ?
Grave erreur. Je veux dire, de toute façon, l'arrangement que nous venons de faire avec les Turcs est peut-être aussi une erreur. On va voir qu'est-ce qui en ressort. De toute façon, nous sommes pris dans une situation difficile. Et ce phénomène migratoire, il ne va pas se tarir d'un seul coup. Voilà.
Et si la guerre se termine avec un accord international en Syrie, est-ce que vous pensez que les millions de Syriens qui sont sortis de Syrie par la guerre, etc., y retourneront un jour ou que c'est fini ?
Bon, y en a beaucoup qui ne retourneront pas. Il y en a qui retourneront, mais il y en a beaucoup qui ne retourneront pas s'ils ont réussi à trouver du travail, s'ils ont réussi à s'insérer. C'est-à-dire que on a vu ça déjà dans le passé. Il y a ceux qui retournent parce qu'il y a des liens familiaux et il y a ceux qui sont installés ailleurs.
Merci beaucoup Gérard Chalian. Pourquoi perd-on la guerre chez Odile Jacob ? C'est le titre de votre livre. Je rappelle que vous revenez à 81 ans de 6 mois auprès des Kurdes qui combattent Daesh au nord de l'Irak et qu'en revanche vous n'avez pas voulu nous dire si vous-même vous étiez battu lors de guérillas très anciennes. C'était un autre sujet, on en reparlera.